À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'un des fromages les plus durs à fabriquer, le ramequin du Bugey. Aujourd'hui, une seule personne le produit selon la méthode traditionnelle. Je vous emmène dans les coulisses de sa fromagerie. Elle a soufflé ses 30 bougies à Bourg-en-Bresse. La médiathèque Elisabeth et Roger Vaillant a ouvert ses portes en 1988. Nous avons récolté les témoignages d'enfants burgiens. Ils racontent la médiathèque aujourd'hui et imaginent celle de demain. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, la médiathèque! Joyeux anniversaire!
Bon anniversaire, la médiathèque Vaillant!
Bon anniversaire, la médiathèque Vaillant!
Pour moi, la bibliothèque Vaillant, c'est un endroit où on peut lire des livres,
se reposer l'esprit, emprunter des CD,
s'y sauter,
travailler la lecture, aller écouter des contes.
On peut emprunter des magazines.
Pour moi, la bibliothèque Vaillant, c'est...
Quand ils accueillent des enfants, ils racontent des histoires.
C'est un endroit couvert d'histoires.
C'est une médiathèque qui est assez sympa avec les écoles.
Pour moi, la médiathèque Vaillant, j'adore et j'aime bien les ordinateurs et j'aime bien les livres.
Si on n'aime pas le livre, ben on peut les rendre sans les garder.
Il y a des coins pour les adultes, pour les petits et pour les grands.
On lit les livres ou si on ne sait pas lire, on regarde.
Moi, ce que je préfère à Médiathèque Vaillant, c'est emprunter des romans longs à lire.
Écouter des contes, ça me met de l'imagination dans ma tête.
Moi, ce que je préfère, c'est apprendre plein de choses, lire des documentaires.
Prendre des DVD.
Moi, ce que je préfère à la médiathèque Vaillante,
c'est
écouter de la musique.
Lire des documentaires sur les animaux.
Sur la vie marine, les coquillages et tout ça.
Bah, moi aussi, ce que j'aime bien, c'est lire des livres sur les pays parce que j'aimerais bien un jour aller en Asie pour voyager.
Moi, ce que je préfère dans la bibliothèque Vaillant, c'est quand mon papa va prendre des grands livres avec plein de pages et pas d'images, et bah, j'aime bien regarder le nombre à la fin, en bas, qui a les chiffres des pages. 165, 166.
J'aime bien me ramener un gros paquet de livres à la maison.
La médiathèque du futur, pour moi, ce serait une médiathèque toute verte qui ressemblerait à un dinosaure, le Diplodocus. Et puis, la queue du Diplodocus, ce serait un toboggan géant pour les enfants. Et puis, un robot automatique qui lirait des histoires et qui donnerait des crêpes.
Elle sera plus à sa place, elle sera en plein centre-ville.
S'il y aurait une personne qui raconterait les histoires, ce serait un extraterrestre qui a quatre yeux et qui a plein de pattes et qui est trop bizarre.
Moi, pour le futur, pour la médiathèque Vaillant, je construirais une armée de robots. Ils vont lire des livres partout dans le monde, dans le futur.
Déjà, il y en aura 5 à Bourg-en-Bresse. Et elle aura la forme d'un crayon. Et tout en haut du crayon, il y aura une grande salle de jeu avec plein d'enfants.
Bah, moi, je veux construire 1100 bibliothèques. Ils vont aller en Chine, en Italie, en Tunisie, partout dans le monde. Aussi à Mars, dans tous les mondes qui existent, dans la Lune. Et ils vont raconter des histoires aux extraterrestres.
Pour moi, la médiathèque du futur, elle serait toute en chocolat et avec plein de bonbons.
qu'elle se transforme en château et puis une salle pour les enfants et puis une salle pour, plein de salles pour les adultes pour qu'ils puissent y ramper.
Moi, la médiathèque Vaillante du futur, elle serait rose et jaune.
Toutes les histoires qui seront dedans seront réelles. Puis dans la bibliothèque, comme ça, on pourra jouer avec les personnages de la bibliothèque.
Par exemple, la petite fille à Alice au Pays des Merveilles, je vais la faire en hologramme et elle pourra parler avec les enfants.
Si les robots ils tombent tous en panne d'un coup, et la médiathèque elle peut être fermée et on ne sait pas trop comment faire. Au mieux des personnes qui veulent travailler dans le métier.
On devra voir dans 30 ans comment ça a changé.
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, la médiathèque Vaillant! Joyeux anniversaire!
Bon anniversaire, la médiathèque Vaillant!
Un projet sonore réalisé par Radio B en partenariat avec les services démocratie locale et éducation de la mairie de Bourg-en-Bresse et les médiathèques. Prise de son et mixage, Pauline Bussy. Un grand merci aux enfants des écoles de Brou, Lazare Carnot, Les Arbelles, Lalanier, Alphonse Daudet et Charles Robin. Bourg-en-Bresse, septembre 2018. Ce projet sonore a été gravé sur un CD. Ce dernier sera placé dans une boîte avec d'autres productions autour du futur de la médiathèque. Alors, cette boîte sera rangée et ouverte dans 30 ans pour comparer les choses imaginées à la réalité. Rendez-vous en 2048.
Radio B.
Radio B.
La médiathèque Elisabeth et Roger Vaillant fête cette année ses 30 ans. Mais savez-vous pourquoi elle porte ce nom ? Roger Vaillant, écrivain journaliste, n'est pas né à Bourg-en-Bresse. Il n'est pas originaire de la région, mais il a vécu à Meillonnat. Yves Nérol est le secrétaire de l'association des Amis de Roger Vaillant.
Alors pourquoi une association des Amis de Roger Vaillant à Bourg-en-Bresse ? Tout simplement pour respecter le vœu d'Elisabeth. Après la mort de Roger Vaillant, Elisabeth avait décidé de confier à la ville de Bourg-en-Bresse tout ce qu'elle avait, qui était resté dans la maison de Roger Vaillant, à la fois ses livres, ses nombreux livres, mais aussi ses manuscrits, ses œuvres d'art, etc. etc. Et donc c'est ce cadeau qui a été fait à la ville de Bourg-en-Bresse qui a amené dans un premier temps, je crois, lorsque la ville a construit cette magnifique médiathèque, a donné le nom d'Elisabeth et de Roger Vaillant.
Elisabeth, l'épouse de Roger Vaillant.
La deuxième épouse de Roger Vaillant.
Roger Vaillant qui a aussi vécu dans notre région.
Alors Roger Vaillant, justement, est venu dans un tout premier temps se terrer dans la Dombe du côté de Mâcon pour... dans un premier temps, s'interroger sur ce qu'il allait devoir faire au début du deuxième conflit, de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y est revenu à la fin de la guerre, il était entré dans la résistance, et il s'est trouvé coupé de son réseau. Il a profité de cette occasion pour se réfugier de nouveau dans cette sorte de repère, et il a écrit assez rapidement son premier roman, Drôle de jeu, et ça a été en quelque sorte le début de son ancrage dans le département de l'Ain.
9 romans, des essais, des récits de voyage, quelques pièces de théâtre, une participation à des scénarios, des prix aussi, le prix Interallié pour Drôle de jeu, le prix Goncourt pour La Loi, attribué en 1957. Comment est-ce qu'on peut définir l'œuvre de Roger Vaillant ?
Eh ben, c'est une œuvre quand même tout à fait à part, puisqu'il se démarque à la fois de ses contemporains par, du point de vue littéraire, une écriture très débarrassée de tout parasite, une écriture qui essaye de confiner à la pureté de l'expression. Ça, c'est la grande leçon de Flaubert, sur laquelle il médite beaucoup à la fin de sa vie. Donc, c'est une écriture très acérée, très vive, extrêmement vive. Et en même temps, tout en s'engageant dans le grand combat qui mène dans les grandes luttes qui apparaissent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les luttes ouvrières, les luttes syndicales, etc., etc., en s'engageant même à l'intérieur du Parti communiste français, il développe toute une thématique qui le fait considérer comme un être parfaitement immoral au vu de la morale publique, on va dire, et qui fait qu'on le considère comme un écrivain un petit peu qui sent le soufre.
Yves Nérol, je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association Les Amis de Roger Vaillant. Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs de Radio B pour apprendre à connaître Roger Vaillant ?
Ben moi, je leur proposerais de commencer par lire le roman qui lui a valu le prix Goncourt, La Loi, un roman qui est assez singulier dans le parcours de Roger Vaillant, puisque pour vraiment le comprendre, il faut effectivement intégrer le fait qu'il était dans une situation extrêmement critique, puisqu'il était pratiquement au bord du suicide. Et ce roman va correspondre à une manière pour lui de renaître, de revivre, de s'affirmer et de commencer une nouvelle ère romanesque dans laquelle il va justement développer cette idée de souveraineté. Je suis mon propre souverain, je veux être mon propre souverain.
Yves Nérol, le secrétaire de l'association des Amis de Roger Vaillant, au micro d'Élodie Gadiolet. Pour les 30 ans de la médiathèque Elisabeth et Roger Vaillant, plusieurs événements sont organisés. La médiathèque propose une exposition autour de son année de naissance, c'est à voir pendant le mois d'octobre. Toujours en octobre, le 13, un petit-déj littéraire 30 ans, ça se fête, pour tester vos connaissances sur les lauréats des prix littéraires des années 80. Retrouvez tous les rendez-vous sur bourg-en-bresse.fr.
Donc on produit à peu près 600 000 litres de lait par an. Pour la fromagerie, j'en prends à peu près 100 000. Donc, je transforme du lundi au vendredi. Donc, le matin, je vais justement, avec ma cuve, prendre le lait chaud pour mieux le travailler.
Donc, vous commencez le matin à quelle heure ?
Donc, moi, j'arrive vers 6 heures, mettre ma cuve. Je vais déjeuner, la cuve se remplit et après, vers 7 heures, ma cuve est pleine. Et donc, je vais direction la fromagerie où je vais tout transformer jusqu'à à peu près 1 heure de l'après-midi.
Restez à l'écoute de Radio B, la suite c'est dans quelques minutes.
I need somebody to
Mitski sur Radio B avec Remember My Name. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Une fois par mois, en partenariat avec l'hebdomadaire La Voix de l'Ain, nous vous proposons une immersion dans le savoir-faire local. Aujourd'hui, on s'intéresse au fromage, le ramequin. Direction Le Buget, là-bas dans les montagnes, plus exactement à Aranda, une seule personne le fabrique selon la méthode traditionnelle. Émilie Manos a rejoint en 2004 le gars avec les personnages, une exploitation familiale, et elle a lancé sa fromagerie. L'agricultrice a débuté avec le ramequin, elle le dit, l'un des fromages les plus durs à fabriquer. Aujourd'hui, elle produit des yaourt, du fromage blanc ou encore du bleu. Suivez-moi sur l'exploitation et dans les coulisses de sa fromagerie.
Donc on est sur le gars avec les personnages, donc on va aller voir les vaches. Nous avons 80 montbéliardes, donc c'est l'heure de la traite. Donc c'est mon beau-frère justement qui est en train de traire tout seul. Mais vous en voyez une qui est en train de se me faire masser. Meilleure la vache est et puis meilleur le fromage est, c'est comme la nourriture, hein. Du bon foin fait du bon fromage. Donc après, on peut aller voir, ben, il y a toutes les génisses. Ben, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on commence juste les vélages maintenant. On a les veaux, on va les garder 3 mois de ce côté pour les nourrir au lait. Et après, on les sèvre pour les mettre sur l'autre stabule.
Au niveau de production de lait, alors ça représente combien de litres?
Donc on produit à peu près 600 000 litres de lait par an. Pour la fromagerie, j'en prends à peu près 100 000. Donc, je transforme du lundi au vendredi. Donc, le matin, je vais justement, avec ma cuve, prendre le lait chaud pour mieux le travailler.
Donc, vous commencez le matin à quelle heure?
Donc, moi, j'arrive vers 6 heures, mettre ma cuve. Je vais déjeuner, la cuve se remplit et après, vers 7 heures, ma cuve est pleine. Et donc, je vais direction la fromagerie où je vais tout transformer jusqu'à à peu près 1 heure de l'après-midi. La ferme a été rachetée par l'arrière-grand-père. Donc les 3 bâtiments qui sont dans la cour, c'est le départ de la ferme. Mon beau-père avec mon oncle ont commencé ici avec des vaches à la tâche, avec 20 vaches. Et puis le grand-père. Donc maintenant, c'est une salle pour que les vaches vêlent. Et l'autre partie où on a les veaux qui sont dans des cases. Regroupé par âge. Là, sur la paille, et le matin et le soir, on va leur donner le biberon.
Et là, ils ont quel âge à peu près?
Là, il y en a 2 jours jusqu'à 3 mois. Maintenant, ils veulent venir téter. Chaque femelle a un prénom, et cette année, c'est la lettre O. Donc, le jour où notre futur associé Corentin est venu salarié, qu'il a fait sa première naissance, je l'ai appelée Orantine.
Orantine.
Orantine, je l'ai dit en français. J'ai enlevé le C, voilà. Là, on donne le biberon. Corentin, notre futur associé.
Ils attendent qu'on leur donne à manger, ils sont comme nous.
Allons à la fromagerie?
Oui. Je vais vous mettre des surchaussures.
Donc nous voilà dans la fromagerie.
Oui, donc elle a été créée en 2004. Et donc on l'a agrandie en 2014. Et en même temps, on a créé une cave d'affinage. Parce qu'avant, c'était ma cave sous la cuisine. Et donc il y avait plein d'escaliers en pierre pour descendre. Et donc avec des caisses de 20 kilos, c'est pas le top. Donc il est vrai qu'avec une cave juste à côté et avec les derniers cris au niveau équipement, c'est le top.
Et pour le ramequin, alors, pour la fabrication?
Donc le lundi, j'écrème. Le mardi, je moule. Le mercredi, je retourne. Le jeudi, je démoule. Après, il va rester jusqu'au jeudi d'après dans la salle de fabrication à la chaleur. Et tous les jours, je vais le retourner. Une fois qu'il va commencer à couler, avoir un peu de peau de crapaud onduleux, enfin de flétrir, il va partir dans le séchoir qui est juste là à côté. Donc voilà, le séchoir où là je vais le mettre à sécher. J'ai des ventilos juste à côté. Et une fois qu'ils seront secs, bien autour, mais un peu durs, enfin tendres au cœur, enfin ça c'est avec l'habitude. Et là ça va rester à peu près entre 1 et 2 mois. Je surveille tous les 8 jours à peu près, je vais aller voir comment réagissent. Et une fois qu'ils sont à point, eh ben, je vais les laver. Donc là, je les mets dans des sacs à trous.
Et pour les laver, c'est on les rince
Et pour les laver, je les rince, je les mets un peu dans le pasteurisateur qui va tourner. Et donc, comme ils tournent assez vite, ça les frotte entre eux. Et une fois qu'ils sont lavés, donc je les rince bien. Et après, je vais les plier, les mettre sous vide et puis en chambre froide en attendant la vente. Par rapport à la différence avec l'ancien temps, c'est qu'avant, il n'y avait pas de chambre froide, il n'y avait pas de machine sous vide, donc il fallait laver tous les 15 jours pour bloquer un peu l'affinage. Donc si vous voulez voir, j'en ai qui sont prêts à laver. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plein de moisissures, de toutes les couleurs, et le fait de les laver, ça va enlever toute la moisissure, toute la couche qu'il y a dessus.
Parce que là, ils sont blancs et on a plus l'habitude de les voir un peu
voilà,
plus translucides.
Voilà, mais si vous grattez dessus, vous voyez dessous, c'est tout jaune. Donc là, je sais qu'ils sont à point. Et voilà, là, c'est mes tomes qui sont prêtes. Je vais les mettre en chambre froide, puis demain, préparer les livraisons. Je vais tout préparer pour livrer mercredi après-midi.
Donc le mercredi après-midi, c'est livraison.
Ça commence souvent le mardi après-midi, et ça termine le mercredi après-midi, et après, souvent, le vendredi, je suis sur un point de vente, donc je relivre le samedi. Je finis, en fait, ce qu'il y a à faire à la fromagerie. Je ne prends pas de lait pour transformer. Ça me permet de finir de nettoyer, de ranger ce qui est à ranger. Et le dimanche, on fait une petite pause, si on n'est pas sur les ventes, pour recommencer le lundi.
Donc vous faites tout toute seule, de A à Z?
En fait, j'ai juste une salariée, 8 heures par semaine, pour au moins m'aider à mouler les fromages blancs et à remplir les bouteilles pour les yaourts à boire.
Mais sinon, pour le...
Sinon, tout le reste, je suis toute seule. J'aimerais bien, de temps en temps, un petit coup de main, mais bon, ça va venir.
Émilie Manos, productrice de fromage au Gaec, les personnages à Aranda dans le Bugey. Comment est né le fromage Le Ramequin? Quelle est l'origine de son nom? Des pastilles sonores à écouter ce vendredi 12 octobre sur le site de notre partenaire, lavoisdelin.fr. Toujours ce vendredi, ne manquez pas dans l'édition papier l'article de Cyprien Dumas pour en savoir plus sur le parcours d'Émilie Manos. Vous apprendrez comment elle est passée de la plasturgie au fromage. Des fromages bientôt disponibles à Bourg-en-Bresse, chez Fabien Picard, avenue Alsace-Lorraine. Retrouvez tous les points de vente sur le site www.ramequinbugiste.com. Émilie Manos sera aussi présente au Salon de la gastronomie de Bourg-en-Bresse. C'est du 8 au 12 novembre.
Radio B.
Quelques infos en bref. Le camion d'Emmaüs Servas reste introuvable. Garé à l'arrière du dépôt, il a été volé début octobre. La communauté a lancé un appel à témoins sans succès. Bernadette Perrault, présidente d'Emmaüs Bourg-Servas, s'inquiète des conséquences pour la vie de l'association et ajoute, je la cite, « Ce qu'on va dépenser en plus, ça sera de la solidarité en moins. La communauté va désormais tourner avec un camion et une petite fourgonnette. Avant de penser à acheter un nouveau véhicule, ils attendent le retour de l'assurance. » Vous n'avez pas terminé votre assiette au restaurant, ça vous dit de repartir avec? C'est possible dès aujourd'hui dans plusieurs établissements du département. Un projet lancé par l'agglomération du Grand Bassin de Bourg pour limiter le gaspillage alimentaire. Fin septembre, environ 200 restaurateurs ont été contactés pour adopter le Gourmet Bag. Une dizaine ont déjà répondu pour le tester, ils peuvent toujours s'inscrire pour y participer. Les restaurants proposant de ramener les restes du repas seront signalés grâce à un adhésif sur leur commerce et ils seront aussi présent sur le site gourmetbag.fr. Nous en reparlerons prochainement dans À vous les Burgiens pour un numéro spécial lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les notaires de l'Ain vous proposent une conférence. Elle sera consacrée à la protection des seniors. Comment, par exemple, bien préparer cette période de la vie où on est plus vulnérable? C'est ce mardi 9 octobre à 17h30 au cinéma L'Amphi à Bourg-en-Bresse. C'est gratuit. La Fête de la Science édition 2018, c'est en ce moment dans le département et jusqu'au 20 octobre, une vingtaine de communes accueillent des animations. L'événement explore une nouvelle fois le thème des idées reçues. Radio B y participe, on vous ouvre nos portes samedi 13 octobre de 14h à 18h, on est au 18 rue Lazare Carnot à Bourg. Vous pourrez même passer derrière le micro. Retrouvez tous les événements de la Fête de la Science sur www.fetedelascience-aura.com. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Pauline Bussy, à Élodie Gadiolet et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.